événements,
partage,
réseau,
au plus proche de vous,
les anecdotes d'entrepreneurs
sur We Do Biz.
Vous êtes sur We Do Biz et nous avons le plaisir d'être ici au Spring Campus de Croissance Plus avec des entrepreneurs de croissance et même un peu plus que ça, pas que des ETI, des entrepreneurs qui ont dirigé des groupes mondiaux, internationaux. Et j'ai le plaisir donc d'échanger avec Xavier Fontanet. Bonjour.
Bonjour.
Alors Xavier Fontanet, on rappelle très rapidement la direction que vous aviez chez Essilor.
Voilà, puisque je suis retraité maintenant, j'ai quitté, mais j'étais longtemps PDG d'Essilor. Voilà.
Et qui vous a amené à rédiger un certain nombre d'ouvrages pour partager l'expérience.
En fait, dès que j'étais en retraite, déjà dès que j'ai commencé à passer les opérations Hubert-Sagnières il y a 3 ans, j'ai eu pas mal de temps. Et donc, j'ai fait beaucoup de conférences que je n'avais pas pu faire quand j'étais opérationnel. Et donc, c'est à l'occasion de ces conférences, j'ai rencontré les éditeurs qui m'ont dit « il faut absolument écrire ». Donc, j'ai écrit ce premier livre sur la confiance.
Quand on fait des conférences tous les jours, à un moment, il faut trouver un autre support.
Alors, ce livre a effectivement provoqué beaucoup de conférences. Et donc, il s'est vendu. Ben, il est à sa 6e édition, en fait, mine de rien. En fait, il se vend beaucoup par conférence, plus que par les librairies. Mais en conférence, vraiment, il s'est beaucoup vendu. Et donc, on l'a fait en livre de poche parce que le premier était à 17,50 et je me suis rendu compte que 9 à 9 euros, ça vend beaucoup plus.
Alors ça, c'est le conseil de Xavier Fontanet à tous ceux qui rédigent dans des ouvrages. D'ailleurs, il y a des fans, la conférence de l'année dernière a marché. On avait un entrepreneur avec qui vous échangez à l'instant.
Oui, je t'ai touché, les gens me remercient. Alors, c'est très impressionnant pour un auteur. Quand les gens remercient, ça, c'est sympa. Mais ce qui est encore beaucoup plus sympa, c'est quand ils se souviennent précisément de chapitres dans lesquels vous avez mis beaucoup.
Alors vous me permettez,
vous
me permettez une transition. Il évoquait un passage avec une discussion entre vous et un membre de la CGT.
Oui, alors vous étiez au comité central d'entreprise. Bon, ici là, on a toujours une très très bonne relation historique avec les syndicats. C'est parce que l'entreprise était une coopérative ouvrière pour la moitié, donc on a gardé la tradition de dialogue avec les syndicats, et nos syndicalistes ont beaucoup d'actions ici lors, hein, donc ils sont aussi capitalistes, hein, bon. Et donc ça change pas mal la nature des discussions qu'on peut avoir. Alors oui, effectivement, le lecteur évoquait un chapitre avec Bogit. Alors j'adore Bogit, c'est le patron de la CGT, il est décédé, hein. Malheureusement, c'était un homme exceptionnel. C'est un type hyper intelligent qui aurait pu faire un PDG, mais qui avait la vocation d'être syndicaliste. Et comme il savait que je le respectais profondément, et que je considérais qu'il avait une vocation, que c'était un saint finalement, hein, on avait toujours eu des très très bons rapports. Donc ça avait
donc
aidé beaucoup.
Donc on peut se parler.
On peut se parler parce qu'on se respectait. Et c'était vraiment sincère. Il savait que c'était sincère. Alors bon, l'histoire est assez marrante, c'est une histoire qui était lié au fait qu'un jour on avait décidé de faire descendre l'usine historique du groupe qui s'appelait l'usine des Battants dans la Meuse et qui produisait des verres en verre, en vieille technologie traditionnelle, donc les verres qu'on a la technique de 100 ans. Elle a été évidemment déplacée par les plastiques, les verres organiques qu'Essilor a inventé. Et donc à un moment donné, avec le patron mondial des productions qui s'appelait Brignon, qui était un type vraiment exceptionnel, on avait pris la conviction interne qu'il fallait commencer à baisser les cadences de cette usine parce que le marché chutait. Bon. Et alors une très grande règle qu'on a chez Essilor, c'est que on dit, quand on a vraiment décidé de fermer une usine, même si on la ferme dans 5 ans, on le dit tout de suite. Parce que
ce qui permet de se préparer.
Ben c'est la confiance. C'est-à-dire que si les syndicats sentent qu'il y a des petites histoires cachées au niveau de la direction, il n'y a pas de niveau de confiance. Alors que quand les syndicats savent que dès qu'une direction a décidé quelque chose, elle n'attend pas le dernier moment pour l'annoncer. En fait, on l'annonce aux syndicats au même moment qu'on l'annonce aux exécutifs. Et ça, c'était une des très grandes règles. Et donc, comme c'était quand même un truc assez lourd, parce que c'était une des plus grosses usines du groupe, je m'étais pointé au comité central d'entreprise. Alors, quand les délégués voyaient que je venais, ils disaient « Attention, qu'est-ce qui va se passer ?» Alors, là, j'étais avec le patron des productions. Et on a commencé la réunion. J'appelle Bogit. Alors, Bogit, je l'aimais beaucoup, il savait bien. Alors, on se donnait du Bogit et du Fontanet. Hein, on s'appelait toujours par les noms. Alors, je lui dis « Bogit, j'ai appris que vous changez de voiture. » Alors, Bogit me dit « Ben oui, Fontanet, j'ai le droit de changer de voiture. » Évidemment. Mais vous aviez une. Alors, je ne vais pas citer les marques.
Hein. On peut.
On peut les citer, mais c'était peut-être l'inverse. Hein. Alors, j'avais une Peugeot. Et puis, je lui dis « Bogit, mais vous avez changé de voiture, mais vous aviez des Peugeot, vous prenez une Renault. » Alors, c'était peut-être l'inverse. Hein, bon. Et alors, je lui dis, c'est pas bien. Mais pourquoi? Parce que ma Peugeot ne marchait pas, donc j'ai voulu punir et je prends une Renault. Alors, j'ai écouté, et encore une fois, les marques, hein, on les inverse. Hein, et je dis, écoutez, Bogit, moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, j'ai une Renault. Bon, mais quand Renault ne marche pas, j'engueule mon concessionnaire, mais je ne change pas de marque parce que moi, je suis fidèle. Bogit, est-ce que vous avez prévenu le patron de la CGT Peugeot, vous changez de marque? Moi, je l'aurais fait. Vous voyez. Alors, tous les gars se disent, mais qu'est-ce qui se passe?
Que nous veut-il?
Qu'est-ce qu'il nous veut? Alors, le CCE continue. Puis, on arrive au moment vraiment sérieux. Et donc, je demande à Boguit, Boguit, est-ce que je peux voir vos lunettes? Alors, il me dit, écoutez, oui. Donc, il me donne ses lunettes. Mais je dis, Boguit, vous avez des verres organiques, des verres plastiques dernière génération. Mais il me dit, Fontanet, j'ai le droit de voir les dernières lunettes. Mais Boguit, vous travaillez dans une usine qui fait des verres minéraux, vieille technologie. Donc, si même vous, patron du syndicat qui travaillait dans cette usine de vieille technologie, vous avez des lunettes plastiques, ça veut dire que vous êtes bien d'accord que cette usine, il va falloir la fermer. Alors, vous imaginez la suite, etc. Alors, c'est très bon enfant. Et de toute façon, le deal qu'on a fait avec les syndicats, c'est qu'on les a prévenus très longtemps en avance. Donc, on a fermé les lignes les unes après les autres. Et puis, tout ça, ça s'est passé extrêmement gentiment. On a reconverti. Et on l'avait fait très à l'avance. Vous voyez, c'est ça qui nous a permis de. Mais voilà, c'est une façon de dire que c'est pas le PDG qui se trompe, c'est le client qui commande. Le PDG n'a aucun pouvoir, c'est le client qui commande.
Alors, on vient évidemment d'évoquer l'une des grandes parties du premier ouvrage. Vous m'avez promis un scoop pour We Do Biz et pour nos auditeurs.
Alors, oui, absolument. Alors, écoutez, en plus, c'est tout à fait ça. En fait, donc, ce premier livre, c'est très, très bien vendu. C'est un livre sur la confiance. Hein. Donc, la confiance, c'est la confiance en soi. C'est la confiance dans les collègues. Hein. Si on fait une bonne émission, c'est parce que j'ai confiance en vous et réciproquement. Bon. Donc, la confiance, c'est une chose qui n'est pas que pour soi, c'est la confiance dans l'autre et on se renforce l'un l'autre. Il n'y a rien qui donne plus confiance à quelqu'un que faire confiance à l'autre. Hein. Mais comme nous sommes des gens intelligents, on ne peut pas nous motiver dans une ambiance de confiance si la stratégie n'est pas bonne. Parce que si la stratégie de la boîte est mauvaise, vous comme moi, on va dire le patron se plante. Et si le patron se plante...
On perd la confiance.
On perd la confiance parce qu'on sait qu'on travaille dans un but. On sait que l'organisme pour lequel on travaille tombera un jour. Et donc, en fait, la stratégie est un des éléments absolument les plus essentiels de la confiance. Et quand je me suis dit qu'est-ce que je continue à raconter, je me suis dit je fais un cours de stratégie. Et donc là maintenant je suis retraité. Hein. Je suis administrateur donc des Sealers de L'Oréal et de Schneider. Et puis donc j'ai fait une fondation. J'ai fait une fondation par abandon d'usufruit d'Action et Sealer. Et donc je fais des cours de stratégie. Et en fait je suis devenu prof HEC, donc j'ai écrit pour HEC un cours de stratégie que j'ai mis sur iPad. Le nom, c'est « Les 12 clés de la stratégie ». Et c'est ce que je suis que je vous invite tous à lire parce que, en gros, je vous passe tous mes savoir-faire et vous devenez stratège en un jour.
Voilà. Alors, si on doit avoir un scoop, ce serait quel passage du livre?
Écoutez, non. Le scoop, je vais vous expliquer ce que c'est. Imaginez, la stratégie, c'est, en gros, il y a 12 clés. Il y a 12 petits concepts à comprendre, d'accord ? Et ça, il faut les avoir compris tous. En gros, c'est trois familles de quatre concepts. Hein. Une première famille qui consiste à comprendre pourquoi on fait de l'argent. C'est pas évident de comprendre pourquoi on fait de l'argent. Hein. Et donc, c'est comprendre l'avantage concurrentiel. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, alors on monte la valeur de la part de marché. Le deuxième concept à comprendre, c'est le concept de finance. Parce que si on veut être leader, il faut croître plus vite que les autres. Donc, comment est-ce que je peux croître plus vite ?
Notamment, j'imagine, ce que vous avez fait avec Essilor, croissance externe.
On donne, comment la finance d'abord. Hein. Donc, c'est tout le jeu entre la dette et le dividende. Donc, très simplement, je vous explique comment, à rentabilité égale, on peut croître plus vite que le petit copain. Donc, il y a un deuxième volet qui est donc le domaine de la croissance, puisque c'est celui qui va vous permettre de gagner la part marché. Puis, le troisième volet, c'est le volet de comprendre le marché, le cycle de vie, comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, c'est toute la compréhension du cycle de vie et des périodes dans lesquelles le marché est fluide, donc dans lesquelles il faut plutôt faire de la croissance organique, donc de l'investissement organique, et les périodes dans lesquelles il faut plutôt faire des joint ventures et des acquisitions. Ce n'est pas du tout les mêmes périodes. Bon. Et donc, ça, c'est la compréhension, si vous voulez, du terrain sur lequel on joue et des caractéristiques. Est-ce qu'on est en plaine ou est-ce qu'on est en montagne ? Qu'il ne faut pas appeler une stratégie de plaine quand on est en montagne et réciproquement. Et une fois que vous avez les trois, à ce moment-là, la lumière vous tombe dessus et vous comprenez vraiment ce qu'est la stratégie parce que vous avez les trois pièces du système. Ou c'est comme un joueur de tennis. Pour bien jouer au tennis, il faut un fond de court. On va dire qu'il faut une volée, puis il faut un service. Bon. Eh bien, il faut les trois.
Et si généralement, un adversaire aussi.
Alors après, il faut un adversaire. Alors après le cours, vous lisez dans ma thèse, c'est-à-dire qu'évidemment, la philosophie... Parce que la stratégie, qu'est-ce que c'est ? C'est, en termes pédants, c'est l'allocation de ressources humaines et financières. Où est-ce que je mets mon argent ? Où est-ce que je mets mes équipes ? Dans un système concurrentiel, c'est-à-dire que j'ai un concurrent intelligent en face de moi. c'est pas de la planification. Vous planifiez pas des autoroutes. Vous avez décidé d'investir contre des gens intelligents, peut-être plus intelligents que vous. C'est ça la finesse. Donc vous avez, c'est le jeu de la concurrence qui est la clé.
Un mot rapide et on va faire un peu de politique fiction. Si demain vous étiez propulsé ministre de l'économie ou des PME, votre première mesure,
alors,
Xavier Fontanet.
Alors ça n'a strictement aucune chance de s'opérer. Donc c'est vraiment un petit jeu intellectuel. Moi j'ai des idées vraiment claires sur le sujet. C'est vraiment le problème de la fiscalité. Le problème auquel il faut évidemment s'attaquer, c'est la fiscalité. C'est-à-dire que la fiscalité, déjà depuis une trentaine d'années, a énormément monté en France par rapport aux autres pays. Ce qui fait que les entreprises françaises, grandes et petites, sont privées des moyens d'investir. Et l'une des raisons pour lesquelles elles perdent des parts de marché, évidemment dans l'exportation, c'est qu'elles ont beaucoup, à résultat égal, il reste beaucoup moins d'argent à l'entreprise pour investir si vous êtes en France que vous êtes en Allemagne. Alors on nous dit tout le temps que les Français sont moins bons. La vérité vraie, les Français sont tout à fait aussi bons que les Allemands, pas dans les mêmes métiers, mais la vérité vraie, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes ressources. C'est-à-dire qu'à même résultat, l'État, en gros, l'État français prend 70% et laisse 30%, alors que l'État allemand prend 30% et laisse 70%. Donc les entreprises françaises à qualité égale ont pratiquement deux fois moins de blé à réinvestir que les Allemands, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Un mot, Xavier Fontanet, sur le tapis rouge qui a continué de dérouler Londres.
Alors, attendez, je vais rester quand même sur le truc. Dans la fiscalité, si vous voulez, tout est mauvais. L'impôt sur les sociétés est trop élevé. Évidemment, après, l'impôt sur les dividendes, il est complètement débile, puisqu'on va pratiquement à 60%, alors que le moyen est à 25%. Le pire de tout, à mon avis, c'est l'ISF et le plus-value. Parce que l'ISF, on est les seuls à avoir l'ISF. Et les plus-values, les taux, c'est quasiment 60%, alors que dans tous les pays du monde, c'est de l'ordre de 20%. Donc, si vous voulez, le pauvre entrepreneur français, il est plumé. Hein. Que ce soit un investisseur, un pigeon... Donc voilà. Alors après le tapis rouge, c'est évidemment, il n'y a pas que l'Angleterre. Je crois que le truc qui est extrêmement grave, c'est que pour moi le plus grave, c'est les jeunes qui sont tentés de partir et qui partent. Le tapis rouge, vous avez les anciens déjà, il y en a beaucoup qui partent ou qui pensent partir. Et puis tous les jeunes, quand ils voient ce qu'on fait aux anciens, donc là on est en train de saborder l'économie, hein, c'est très clair. Alors je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. Hein. Les gens commencent à comprendre que à trop cogner les boîtes, les gars ne peuvent plus investir. Donc, et vous verrez les chiffres qui sortent maintenant, ils sont très, 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 très clairs. Puisqu'on voit maintenant que l'investissement privé est largement négatif. Et donc, c'est lui qui tire l'économie vers le bas. Et tout le monde comprend que si on n'investit pas, c'est fait du chômage. Donc, le chômage vient fondamentalement, l'accélération du chômage, c'est évidemment l'accélération de la fiscalité. Donc, j'espère que les gens comprennent. Donc, ça, ce serait ça le premier truc à faire. Hein.
Un autre mot d'actualité, là, pour le coup, sur le possible rachat de Dailymotion.
C'est très, 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 très dommage de voir des belles boîtes qui changent de main et qui passent dans les mains étrangères. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous piquez tout le fric, donc vous piquez tout avec les ISF. En plus, le pire de tout, ce sont les plus-values. Parce que si quelqu'un voulait acheter Dailymotion, il est obligé de vendre les actions qu'il a. Donc, il est obligé à ce moment-là d'externaliser les plus-values. Et il se fait tout piquer. Donc, il préfère rester. Donc, je pense que... Attendez, c'est pas compliqué. Le truc le pire qui est fait actuellement, et c'est évidemment ce que l'histoire retiendra, c'est l'explosion de la fiscalité. Des gens comme moi, par exemple, on a en fait des impôts plus élevés que les revenus. Hein, bon. Et le truc le plus grave, qui est très, très subtil à comprendre, c'est que quand on vous dit que vous avez un impôt, c'est pas le vrai impôt. Parce que pour payer l'impôt, vous devez vendre des actions et vous générez des plus-values qui refont l'impôt. Donc en fait, l'impôt que vous voyez, c'est la somme, ouais, mais pour la générer, donc même le concept d'impôt a perdu le sens. On ne sait plus ce que ça veut dire.
Xavier Fontanet,
c'est pour ça que beaucoup de gens partent à cause de ça.
On vit malgré tout une période de crise. On dit que tout le monde doit serrer la ceinture et donner de sa personne. Ah,
évidemment, mais ça, je crois que les entrepreneurs...
Dans quelle mesure
tous les entrepreneurs sont tous prêts. Attendez, tous les gens sont prêts à faire des efforts. Enfin, ça ne se discute même pas. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Et alors, le pire de tout, si vous voulez, c'est qu'il n'y a aucune réforme de la sphère publique. Vous auriez une grosse attaque des coûts de la sphère publique. Il y a 1000 milliards de coûts. On dirait, allez, on enlève 100 milliards. À ce moment-là, à la limite, je dirais, ça passe tout de suite. Mais ce qui est absolument inacceptable, c'est qu'on a complètement tapé sur toute la partie entreprise et qu'il n'y a absolument aucun changement dans la sphère publique. Que vous verrez que les coûts de la sphère publique, ils ont continué à monter. Alors, on invente des histoires en disant qu'on va les,
on
va baisser, qu'on stabilise. Mais dans la réalité, vous allez voir que ça a monté. Et là, je trouve que c'est ce qui est le plus inacceptable. C'est que, évidemment, les gens sont prêts à faire des efforts, mais ils font des efforts et il n'y a rien en face. C'est ça qui ne passe pas. Et ça, c'est très mauvais pour la confiance. Alors, bien, c'est tout. Alors, de toute façon, ça va être un jour, ce sera obligé de bouger. Mais je trouve que ça a été un peu nul, hein, entre nous, alors vraiment nul. Hein. Parce que je trouve que la façon dont on a tapé sur les entrepreneurs sans rien faire du côté de la sphère publique, c'est absolument inacceptable, si vous voulez. Et donc, ça, c'est vraiment gravissime. Alors, j'espère que les Français commencent à comprendre. C'est pas sûr, hein. Pas sûr.
Xavier Fontanet, vous évoquiez ce qui vous choque. Est-ce qu'il y a des choses qui vous rassurent ou qui vous donnent de l'espoir ?
Croissance plus. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est la vivacité des jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est tout. Vous avez, au moment donné où on martyrise l'entreprise, parce qu'au fond, un impôt, c'est une absence de confiance. Parce que c'est l'État qui prend tout le fric en disant « c'est moi qui vais investir ». Bon. Alors, en plus, bon, ils n'ont pas du tout les moyens d'investir, puisque de toute façon, la dette de l'État est telle que c'est complètement c'est vraiment scandaleux. Bon. Mais ce qui est extraordinaire au même moment, c'est qu'il y a une telle énergie des jeunes à entreprendre. Alors, c'est parfois un peu du refus de l'autorité. Moi, j'écoute bien. Il y a souvent, je veux être mon boss parce que je ne veux pas obéir à quelqu'un. Donc, il y a parfois une petite partie. Bon, mais il y en a beaucoup qui sont des vrais entrepreneurs. On en a vu 3 aujourd'hui. Et je trouve donc que Croissance Plus incarne une vraie France. Pour moi, c'est la France telle que je la vois. C'est la France d'entrepreneurs. Et donc, c'est formidable à un moment donné où on martyrise tous ces gars-là, qu'il y ait une telle énergie, quoi. Donc, je pense que sur la durée, ça l'emportera. Mais c'est pas encore fait. Il faut que le gouvernement. Il n'y a pas un entrepreneur au gouvernement, si vous voulez. Il n'y a pas un seul qui a risqué son argent. Il n'y a pas un seul qui a fait une vente. Comment voulez-vous faire ? Comment voulez-vous ? Donc, c'est ça qui est. Il y a vraiment un problème dans le système de sélection des élites politiques qui fait qu'en France... Alors, ça vient d'un truc très simple, c'est qu'en France, quand vous êtes dans la fonction publique et que vous êtes élu, vous n'avez pas démissionné. Et donc, vous avez un avantage de la sphère publique sur la sphère privée dans la conquête du Parlement et donc du gouvernement. Et donc, vous avez en fait un gouvernement qui ne représente pas la société dans son ensemble. Et en fait, on confond l'État avec la société. Mais la société, vous avez une société et puis une sphère publique ou un État et une sphère privée. Mais la société ne se confond pas avec l'État. Et c'est ce qu'ont réussi toutes les grandes démocraties, c'est avoir un gouvernement qui représente la société dans son ensemble. Alors que là, c'est l'État qui a mis la main sur la société. Voilà.
Bon, évidemment.
Alors, je suis un peu philosophique, mais bon, vous me demandez, ben voilà.
C'était un plaisir.
Et c'est ce que j'explique dans mes petits papiers.
Voilà. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Xavier Fontanet.
Vous avez bien compris.
Très bien compris. Voilà. Et vos petits papiers, on le rappelle pour que nos auditeurs le comprennent bien. Les 12 clés de la stratégie sur iPad par Xavier Fontanet.
Merci.
On était sur Udubiz ici au Spring Campus de Croissance Plus. À très bientôt et on vous laisse poursuivre sur Udubiz.